il ne peut pas me révolter puisqu'il n'existe pas. Personne ne parle de désastre écologique. On parle d'écologie, et d'espoir et de façon d'y arriver. Même si on s'en rendait compte, et on finira par s'en rendre compte, mais tout doucement, et on acceptera. On vivra sur une planète de béton, mais on ne sera pas plus malheureux que ça.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
François Cavanagh, vous avez reconnu qu'il disait que la vie, ce sont des points ou des virgules, mais entre les deux, c'est de la foutaise. Il n'aimait pas le point-virgule, il n'aimait pas non plus, effectivement, peut-être certains compromis. Et on va lui dédier cette émission avec nos amis journalistes ici présents, à savoir Jeanne Lingard, qui est de Mediapart, Bénédicte Magnier de l'AFP, Hervé Kempf de Reporter, Frédéric Danhé de chez lui, et de Politis, nous avons Claude-Marie Vadreau. À la technique aujourd'hui, Sandrine Laurent et Alexandre Chenet, et assisté de Stéphane Combe, sans oublier Albert Houck, eh bien c'est Fabrice Lègle qui réalise l'émission. Allez, une petite humeur. Que diriez-vous d'une promenade aux portes de Paris? Une promenade qui peut rapprocher un passé pas forcément glorieux et futur incertain, qui nous offrirait un vertigineux voyage dans le temps. Alors c'est Reporter, hein, le quotidien de l'écologie sur internet d'Hervé Kempf, qui nous suggère la balade. Nous sommes à la limite de la Seine-et-Marne et de la Seine-Saint-Denis, dans le fort de Vaujours. Initialement construit pour arrêter les porteurs de casques à pointe, le lieu a surtout servi au commissariat à l'énergie atomique qui l'a occupé jusqu'en 1997, pour y pratiquer parfois à l'air libre des essais nucléaires de faible ampleur. Bon, c'était mururois, mais en tout petit quand même, un jet de pierre de Paris, ah, ça vous, peut-être que vous ne le saviez pas. Alors, c'est sûr, cette mini-java des bombes atomiques a contribué à répondre un peu, beaucoup passionnément, des petits morceaux d'uranium un peu partout. Ces déchets ont été évacués à grandes eaux dans des puits dits de lavage, profonds de plusieurs dizaines de mètres, histoire de faire profiter les couches géologiques de toute cette belle technologie moderne. Allez, zou, sous le tapis. La vilaine poussière. Intervenue au fort de Vaujours en 2001, la CRIRAD, la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité, a confirmé par ces mesures la contamination des sols. Bon, afin de rassurer tout le monde, l'État a entrepris une campagne de dépollution sur une petite partie du site. Ah bah oui, que voulez-vous? Les choses sont mal faites. Polluer, ça coûte rien. Dépolluer, ça vous arrache un bras. C'est comme ça. Aujourd'hui, un joli projet de carrière à ciel ouvert sur ce même site risque de ramener à hauteur de narines de riverains la radioactivité que l'on a naguère si maladroitement tenté d'enfouir. Alors la société Placoplâtre qui souhaite extraire le gypse situé en profondeur pourrait bien, en brassant ces millions de mètres cubes de terre contaminée, offrir quelques jolis cancers supplémentaires à son personnel, comme aux habitants de Vaujours et des communes voisines. Tout ceci ne se déclara pas avant 15-20 ans, rassurez-vous. Ces riverains d'ailleurs se montrent plutôt réticents et voudraient bien ne pas essuyer les plâtres et encore moins prendre un ticket pour un désastre sanitaire un peu annoncé. Et ça, c'est l'éternel problème. On apporte le progrès aux gens et ils le boudent. Hein ? Et pourtant, en définitive, la radioactivité, c'est beau. Ça a comme espèce de parfum d'éternité. On en a au moins pour des millions d'années et donc elle a bien sûr de Vaujours devant elle. C'est amusant. Nos amis journalistes sont réunis avec un certain nombre de sujets. On en a une dizaine à peu près sur la table. On verra ce que l'on va pouvoir passer. Je vais commencer avec vous, Claude-Marie Vadreau. Claude-Marie Vadreau, donc de Politis, car vous revenez de Russie. C'est un pays que vous connaissez bien depuis très longtemps parce que vous avez été grand reporter là-bas. Et donc, youpi, les Jeux Olympiques sont là. Donc, c'est merveilleux. On va pouvoir faire presque du ski. Alors, je ne sais pas si c'est du ski nautique dans une station balnéaire ou bien du ski en altitude, mais vous avez regardé un petit peu quand même le changement de paysage. On va dire publiquement.
Oui, il se trouve que je connaissais Krasnaya Poliana, qui est la station nouvelle. C'est une jolie petite vallée avec une rivière, la Zimta. Et bien tout ça, j'ai constaté que ça avait disparu absolument. Les immeubles ont remplacé les quelques petits hôtels qui étaient là-bas. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est que quand j'ai quitté Krasnaya Poliana, il y a quelques jours, il pleuvait beaucoup et il faisait 7 degrés. L'explication est simple, c'est la première fois que l'on installe les Jeux d'hiver dans une ville subtropicale. Ouais. Donc je ne sais pas s'ils auront de la neige, mais que tout le monde se rassure, il y a plus de 500 canons à neige qui fonctionnent en permanence depuis la fin du mois de décembre.
Alors,
donc, est détruit là-bas.
Ce que je vous propose, nous allons écouter un son de nos amis de France Info, et puis on va revenir sur le sujet, bien sûr. C'était Yann Bertrand qui aussi était avec vous à ce moment-là.
Non, nous ne sommes pas en discothèque, mais bien dans une station de ski. Son nom, Rosa Kutor, elle a été construite en quelques mois au cœur de la vallée de Krasnaya Poliana, à une cinquantaine de kilomètres de Sotchi. Les boutiques de luxe et les hôtels ont ici remplacé les arbres autour de la rivière. Vladimir Kimaïev, militant écologiste et membre de l'opposition municipale, en veut beaucoup aux promoteurs.
Ces hommes-là sont des criminels. Ils ont fait construire une route dans la station de Rosa Kutor, alors que juste en dessous, il y a la rivière. Et c'est juste là que le saumon remontait le courant pour aller se reproduire.
Autant dire que ce militant écologiste ne croit pas au jeu vert vendu par le comité d'organisation sous le slogan « Zéro déchet sur le parc olympique ». Mais c'est bien avant que tout s'est joué. Les déchets du chantier ont largement pollué tous les cours d'eau. Le blogueur Alexandre Valov tient à parler de l'exemple de cette décharge construite dans les hauteurs de Sotchi.
Pour que vous compreniez bien, la construction de cette décharge a beaucoup abîmé l'écosystème de cette région. Par exemple, les eaux usées ont coulé jusqu'à la mer et l'eau avait ensuite la couleur du Coca-Cola.
Dans la vallée caucasienne de Krasnaya Poliana, les kilomètres de route et de rails enjambant la rivière Mzimta ont fait dériver le cours d'eau et abattre près de 4000 hectares de forêt, sans compter les risques de glissement de terrain ainsi accrus. Mais les écologistes ont aussi quelques petites victoires à leur actif, comme le déplacement de la piste de bobsleigh hors du parc naturel protégé. Vladimir Kimaïev.
Ce genre de victoire nous encourage, mais le gouvernement nous prend pour des extrémistes et il essaye de nous discréditer.
Le sort des militants écologistes à Sotchi reste peu enviable. Le mois dernier, Yevgeny Vitichko a été condamné à 3 ans de camp, accusé d'avoir dégradé une clôture entourant la datcha du gouverneur de la région. Un procès qui s'est déroulé dans des conditions troubles. Lorsqu'il a été arrêté, il s'apprêtait à publier un rapport accablant sur le désastre écologique provoqué par le chantier des Jeux.
Merci à Yann Bertrand de France Info pour ce reportage. Claude-Marie Vadreau, donc vous avez rencontré vous aussi ces militants ?
J'ai rencontré longuement Evgeny Vitichko, qui est effectivement sous le coup d'une condamnation à 3 ans de camp d'internement à régime sévère pour hooliganisme, c'est-à-dire qu'il a accroché une banderole à la barrière de la propriété du gouverneur expliquant que la forêt était à tout le monde. Alors, ces 3 ans, c'était avec sursis, et il y a quelques jours, le sursis, personne ne sait pourquoi, a été révoqué. Ce qui veut dire que Evgeny va, dans les semaines qui viennent, être incarcéré pour 3 ans. Alors il va se dépêcher d'intervenir, de réagir, puisque le 5 février, il va essayer d'aller à Moscou, aidé par des associations internationales, pour expliquer tout ce qu'ils ont relevé comme incongruité écologique pendant la construction. Il espère, la semaine prochaine, donc pouvoir révéler ça, faire un peu bouger les choses, parce qu'ils se sentent bien, bien, bien isolés. Et dans le reportage précédent, j'entendais le problème de la pollution avec des eaux couleur de chocolat. Et ben, il y a quelques jours, il y avait un torrent qui se jette dans la Mzimta, qui est la rivière canalisée maintenant de Poliana Krasnaya, et elle était déjà toujours couleur de chocolat. Car les travaux continuent.
L'autoroute à 8 milliards, comment va-t-elle ? Ça va ?
L'autoroute, elle va très bien. D'ailleurs, il n'y a pas de problème, puisqu'elle est construite sur... Elle fait 45 kilomètres de long, tout comme la voie de chemin de fer qui monte
Je ne peux pas vous aider, là. La voie de chemin de fer, je ne connais pas. Donc
au champ olympique, voilà, au champ de neige, aux pistes de ski. Et sur ces 45 kilomètres, il y en a 36 qui sont dans le lit de la rivière.
Ah bah oui.
Oui, le lit de la rivière qui a été canalisé, transformé, déplacé. Et d'ailleurs, il y a trois jours, ils étaient en train de lutter avec des engins de travaux publics parce qu'elle voulait sortir du nouveau lit qu'on lui avait assigné.
C'est incroyable. C'est incroyable. Il faut envoyer la garde là.
Ouais. Hein, oui. Oh bah la garde, rassurez-vous, elle est là-bas. Il y a 30 000 ou 40 000 policiers et militaires, donc c'est bien gardé.
Il y a un peu plus de spectateurs, mais peut-être pas tant que ça. Donc voilà.
Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a plus de vie dans cette vie, dans cette rivière. Plus de saumon, plus de truite, plus rien. Et c'est pareil sur les pentes au-dessus de Krasnaya Poliana. C'est totalement désertifié. C'est absolument extraordinaire d'avoir transformé ce petit village que je connaissais, comme je vous le disais tout à l'heure, en une espèce de monstre de béton peint en jolies couleurs.
Voilà, donc c'était effectivement ode aux Jeux Olympiques avec vous, Claude-Marie Vadreau. Je ne sais pas si les voitures et les camions payent de l'écotaxe là-bas, mais on va s'y intéresser avec vous, Frédéric Danvé. Bonjour, cher Frédéric.
Bonjour, Denis.
Vous avez presque votre ronde serviette, vous le savez, dans cette émission, puisque vous venez décrypter régulièrement l'actualité. Et là, on va parler de l'écotaxe. De nouveau de l'écotaxe, parce qu'il y a quand même des nouvelles assez intéressantes qu'on ne sait pas forcément de la part peut-être des transporteurs aussi.
Non, il y a toujours matière à rigoler. Vous savez, il y a un rapport sénatorial. Il y a l'opale parlementaire sur l'écotaxe qui a pondu une réforme fondamentale de l'écotaxe qui va donc s'appeler l'éco-redevance. Ça va tout changer.
On change de mot là déjà.
Et qui propose, d'exonérer de l'écotaxe. Alors jusqu'à présent, les lanceurs de missiles, les chars d'assaut, les transporteurs de lait étaient exonérés. Maintenant, ce seront les transports d'animaux vivants, de carcasses, de produits agricoles. Voilà, ça c'est une chose. Donc on exonère l'agroalimentaire. Mmh. Et puis on risque d'augmenter le statut de vous savez, ces régions situées un peu loin qui payaient moins d'écotaxes.
Hein. Donc la Bretagne.
La Bretagne, l'Aquitaine, Midi-Pyrénées, ce statut particulier qui en gros entraîne une division par deux du montant de l'écotaxe, risque d'être étendu à beaucoup de régions.
Alors ce qui est très intéressant, c'est que quand même les transporteurs qui avaient anticipé cette affaire étaient plutôt pour cette écotaxe.
Et ça, c'est
les gros transporteurs.
Les gros transporteurs, les gros distributeurs, les gros chargeurs, ceux qui s'étaient préparés à cette écotaxe ou à la taxe carbone avaient fait en sorte d'améliorer leur outil de travail, c'est-à-dire en gros de mutualiser les camions de façon à ce qu'il n'y ait plus un camion sur 10 vide. Former les chauffeurs à ce qu'on appelle l'éco-conduite pour qu'ils anticipent les freinages, par exemple, et mine de rien, ça fait 5-6% d'économie de carburant, etc. etc. Et alors c'est un cabinet qui s'occupe de ça, un cabinet de consultants, la B2P, Alain Bory, qui publie des chiffres. Donc, je n'ai pas le droit de vous citer de marque, mais disons que dans la grande distribution, chez les gros transporteurs, les économies déjà réalisées en prévision de l'écotaxe vont de 8 à 20%
ce qui est énorme.
Sur le budget transport.
Sur le budget transport, oui.
En moyenne, 8-9%. Alors, pour elle, évidemment, l'arrêt de l'écotaxe est tout bénéfice. L'écotaxe était 5% de budget transport en plus. Elles ont fait 9, 10, 15, voire 20% en moins.
Ah oui.
C'est tout bénéfice pour elles. Derrière tout ça, si vous voulez, l'écotaxe pour ces grands groupes, donc on ne favorise que les grands groupes, évidemment, qui ont les moyens d'anticiper ce genre de choses, qui ont les moyens d'améliorer la performance de leur outil. D'une certaine façon, l'écologie est toujours l'idiot utile du système économique qui s'améliore de plus en plus avec ça. La grande distribution est gagnante. Mais il y a une autre question, c'est que tous les pays qui ont mis en place l'écotaxe, il y en a 7, ce sont tous les pays d'Europe centrale et de l'Est, il y en a 4 autres qui vont l'appliquer, dont la France, ce sont des pays de transit de camions.
Mmh. On est un pays de transit de camions.
On est le pays par excellence de transit de camions. Ces pays se sont déjà adaptés, ont déjà adapté leur outil en anticipant l'écotaxe. L'argent gagné par l'État était réinvesti sur les infrastructures routières. Et la grande peur aujourd'hui de la grande distribution et des transporteurs, c'est de voir la France déclassé, de perdre des marchés parce que les routes nationales et routes départementales ne sont plus entretenues, parce que la flotte de camions n'est pas aux normes, la norme Euro 6. Et donc, les transporteurs, sans le dire vraiment, vont taper à la porte de notre ministre des Transports pour leur dire il faut l'écotaxe. Et en même temps, vous avez les élus qui sont contre l'écotaxe, qui réclament de M. Cuvilliers des investissements autoroutiers sur les transports, mais il manque 500 millions en France, 500 millions d'euros, dont 20% auraient pu être abondés par l'écotaxe.
Et aussi qui aurait permis d'améliorer l'infrastructure à la fois portuaire et ferroviaire.
portuaire, ferroviaire. Donc on a eu un communiqué de presse assez étonnant de tous les représentants des bateaux, qu'ils soient sur les fleuves, qu'ils soient en mer, des représentants du transport combiné, du transport ferroviaire, pour demander cette écotaxe parce qu'il leur manque de l'argent, parce qu'il n'y a plus d'argent et que l'écotaxe, on a parlé dans cette émission, Denis, l'écotaxe, son premier but, son premier objectif, c'est bien de récupérer du fric, tout oui. simplement, avant un objectif écologique. Il manque au moins 500 millions et l'État est à court parce que l'État...
Le récupérer pour, a priori, travailler pour sur les structures nouvelles, ferroviaires...
Et en particulier les structures de transport alternatif, transport combiné, etc., etc.
Ce que vous avez dit d'ailleurs dans la fin du Tout Voiture, dans votre ouvrage édité chez Actes Sud, vous l'aviez quand même un petit peu anticipé, cette affaire-là. Et alors, allons plus loin, et ce n'est pas de la science-fiction. Est-ce que ça pourrait être appliqué aux voitures, la voiture de Monsieur Tout-le-Monde?
C'est le lièvre qu'a levé, entre guillemets, Marianne dans son numéro d'hier. Marianne sort le vendredi maintenant, et non plus le samedi. Alors, ce n'est pas vraiment un lièvre, parce que c'est dans l'écotaxe, et c'est dans tous les projets d'écotaxe, dans toutes les écotaxes européennes. De toute façon, à un moment ou un autre, ça s'appliquera à la voiture. On veut faire payer à la voiture les coûts qui ne sont pas couverts par les taxes actuelles. On en avait parlé à propos de la fin du Tout Voiture. Il y a à peu près 400 milliards qui ne sont pas couverts à l'échelle de l'Europe, les externalités de la voiture en termes d'usage de la voirie, de pollution, etc. L'écotaxe servira à l'échelle de 5 à 10 centimes du kilomètre, sans doute, pour...
C'est 73 centimes en Suisse, j'ai vu ça.
Ça, c'est l'écotaxe. Oui. Pour les camions, 73 centimes, c'est 6 fois moins en France. Oui. Voyez, ils ne se plaignent pas trop, les Suisses.
Bon, on va poursuivre ce voyage avec nos amis. On va pouvoir partir en Inde, on va parler de gaz de schiste, de culture, d'écologie. Tout ceci mêlé, ce sera après Thomas Fersen. Mais oui, mesdames.
Au vide-grenier de Plouze et Lambre, j'avais des nichés pour ma chambre, un miroir ovale comme un œuf, et malgré son âge presque neuf, quand on disait bonjour madame, il en sortait une jolie dame, il en sortait deux jolies dames, il en sortait trois jolies dames. Que faire avec ces jolies dames? Elles ne venaient pas jouer aux dames. Depuis le vase de Soissons, elles n'avaient pas vu de garçon. Et je craignais pour ma santé, pour ma santé, mais oui mesdames. En outre je suis monogame, mais elles ne m'ont pas écouté. Et elles ont sauté sur mon lit, elles m'ont couvert de baisers. J'en ai reçu comme une pluie, en somme j'en étais tout mouillé. Et je craignais pour mon sommier, pour mon sommier, mais oui mesdames. En outre je dois faire mes gammes, je dois faire mes gammes en premier. Elles m'ont couvert de mots tendres. J'en recevais comme une volée. Et j'en étais tout affolé. Et je craignais pour ma raison. Pour ma raison, mais oui, mesdames. Pour ma raison et pour mon âme. Je ne veux pas finir dans les flammes. Et je craignais pour les ressorts. Pour les ressorts de libédin. Alors ils m'ont tiré au sort, et pour ratata, 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 et pour ratata.
Là, j'écoute CO2 Mon Amour avec Denis Chessou sur France Inter. Et si je loupe un morceau, je suis larguée. Je dis qu'avec toi, oui, je peux toujours reprendre. Bisous, bisous.
Mais absolument, mais oui, parce qu'il y a quand même des choses qui se disent dans cette émission. Donc nous sommes en direct, vous l'avez compris, ronde de journalistes avec 5 journalistes. Et je vais me tourner vers Bénédicte Magnier, journaliste à l'AFP. Vous aviez sorti un ouvrage, on vous avait reçu pas mal d'ailleurs sur France Inter, avec 1 million de révolutions tranquilles aux éditions Les Liens qui Libèrent, et qui nous montrait sur différents continents ce qui se passait d'éminemment positif. Vous êtes une spécialiste de l'Inde. Alors, tout petit pays, 1,2 milliard d'habitants aujourd'hui. Et on va partir du côté de Delhi. Que se passe-t-il du côté de Delhi?
Eh ben, en Inde,
la capitale. Hein,
voilà. La capitale, absolument. En Inde, on respire de plus en plus mal dans les grandes villes, et surtout à New Delhi, où depuis des années, des études montrent que la pollution s'aggrave, et les dernières études en date sont plutôt alarmantes. Mmh. Alors, chez les enfants, cette pollution provoque de l'asthme, ça on le savait, mais maintenant aussi des carences en vitamine D, des problèmes de concentration. Un enfant sur 3 à New Delhi présente aussi une capacité pulmonaire réduite. La ville compte par ailleurs 13 000 nouveaux cas de cancer du poumon chaque année.
Chouette.
Et d'une manière générale, l'Inde connaît aujourd'hui le record mondial de mortalité liée aux maladies respiratoires.
Alors, en cause, parce que donc 16,5 millions d'habitants, me semble-t-il, du côté de Delhi.
Alors, évidemment, les grandes responsables de cette pollution, ce sont les voitures. Parce que la croissance de la classe moyenne en Inde s'accompagne d'un développement du parc automobile. À New Delhi, il y a 7,5 millions de voitures à l'heure actuelle, dont 60% roulent au diesel. C'est sans compter les...
Comme chez nous. Oui. C'est comme chez nous.
Voilà. C'est sans compter les deux roues qui sont encore plus nombreux que les voitures. Et chaque jour, 1300 nouveaux véhicules sont immatriculés dans la capitale. Alors, pourtant, il ne faut pas croire que l'Inde n'a rien fait. Hein. Des efforts ont été faits ces dernières années. Depuis 13 ans, les bus publics et les rickshaws, vous savez, ces petits triporteurs de transport des personnes, sont obligés de rouler au gaz naturel comprimé. Mais visiblement, ça n'a pas suffi et ça n'empêche pas que les choses empirent. Et d'ailleurs, si on en croit l'indice environnemental développé par Yale et Columbia, New Delhi serait même devenue une ville plus polluée que Pékin. Ce qui n'est pas rien quand on connaît la pollution.
Il faut un concours, quoi. Oui.
De Pékin. Alors, est-ce qu'à terme, New Delhi devra prendre les mêmes mesures que Pékin, c'est-à-dire limiter le nombre de véhicules neufs chaque année? Ils ont été limités à 240 000 par an à Pékin. On ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les associations environnementales indiennes tirent la sonnette d'alarme. Elles demandent d'urgence des mesures de santé publique. Alors, si mesures il y a, ça ne sera sûrement pas dans l'immédiat, parce que l'Inde est en campagne électorale. Et le monde politique n'a sûrement pas envie de contrarier la classe moyenne.
Et ben voilà, mais c'est un point commun, vous savez, là aussi, on se rend compte que oui, c'est quand même une démocratie, évidemment, contrairement à la Chine qui peut prendre des mesures assez drastiques, à mon avis, pour les voitures à Pékin. Alors, on a aussi quand même une bonne nouvelle, toujours du côté de l'Inde, là, on n'est pas forcément donc à Delhi, parce qu'un jugement exemplaire vient de débouter une multinationale. On veut en savoir plus, Bénédicte Magnier.
Oui, on va sur la côte est, cette fois, dans l'état de l'Orissa, où une tribu de l'Inde vient de remporter une victoire assez étonnante. Alors, ça faisait 10 ans que les Dongria Kont, c'est le nom de cette tribu, se battaient en justice contre l'exploitation minière de leur territoire par une firme britannique qui s'appelle Vedanta et qui voulait en extraire la bauxite. Alors, ces populations tribales invoquaient d'une part une loi de protection de la forêt et d'autre part la constitution indienne qui protègent les droits religieux parce que leur territoire compte une colline qu'ils considèrent comme sacrée. Alors la Cour suprême de l'Inde a fini par leur donner le droit d'organiser un référendum local sur l'ouverture ou non de cette mine. Le vote de la tribu a évidemment rejeté massivement ce projet industriel et le gouvernement indien vient d'entériner cette décision la semaine dernière en rejetant le dernier recours possible pour Vedanta. Alors, pourquoi c'est important, cette décision? D'abord parce que cette région forestière abrite une faune et une flore absolument uniques, qui auraient été détruites, évidemment, par cette mine à ciel ouvert, ce qui aurait aussi privé la tribu de tous ses moyens d'existence. Mais en plus, ce territoire concentre les sources de 30 rivières, qui sont indispensables à la vie des habitants de toute la région et qui auraient été pollués, évidemment. Et surtout, ce jugement unique pourrait faire jurisprudence en Inde, qui est un pays où plusieurs autres tribus sont menacées par des projets industriels et où plusieurs ont déjà été déplacées de force.
Alors, voilà, ça nous fait quand même... Non, mais c'est un signe d'espoir, hein, cette affaire-là. Donc,
absolument. Et c'est finalement le premier référendum vert de l'histoire de l'Inde. Et plusieurs pays pourraient s'inspirer de ce...
Il y a eu la ceinture verte, là c'est le référendum vert, mais enfin bon, la ceinture verte, ça n'a pas non plus forcément marché partout. Voilà, ben ça nous fait une bonne nouvelle aussi de l'étranger. Hervé Kempf est avec nous, donc avec le site reporter.net, vous avez le site sur le site de CO2 Mon Amour. Alors là aussi, hein, si vous souhaitez après converser, vous en avez l'habitude, franceinter.fr, après vous échangez, vous allez sur le site de CO2 Mon Amour, allez-y. Hervé Kempf a reçu le prix Plume, je tiens à le dire, le prix Plume, et ce sont les adhérents de l'ASPAS, l'Association pour la protection des animaux sauvages qui vous l'a remis pour le journaliste courageux pour ses prises de position. Voilà, et en même temps, ils ont mis, Ils ont mis aussi un trophée de plomb à Delphine Bateau et Stéphane Le Foll qui ont reçu pour leur plan loup anti-écologique. Voilà, alors je tiens à préciser que l'ASPAS, c'est vraiment une association qui est apolitique. Hein. C'est pas question de, il est question de protection de la nature, une cause qui se situe au-dessus, on va dire, des choix politiques pour eux depuis très longtemps. Nous allons écouter ce son qui nous vient de nos confrères d'Europe 1. Vous allez retrouver la voix d'Arnaud Bondebourg.
Moi, je crois qu'il faut d'abord réaliser qu'il y a un problème environnemental qu'il faut admettre. Aux États-Unis, les dégâts sont très importants. Et on ne peut pas l'admettre, nous. Donc, il faut donc travailler à trouver des techniques parfaitement propres pour avoir une exploitation écologique, c'est-à-dire compatible avec nos standards élevés d'environnement. Pas de pollution dans le sous-sol, pas de pollution en surface. Et je pense qu'on peut convaincre sur cette base-là. Donc ça suppose qu'en effet, on fasse de la recherche. Mon travail, c'est de convaincre. Ce n'est pas le cas pour l'instant, mais mon travail, c'est de convaincre. Il n'y a que deux pays au monde qui interdisent même la recherche. C'est la Bulgarie et la France.
Gaz de schiste, mon amour, donc suite du feuilleton en France. On ne parle plus maintenant de fracturation hydraulique. Là, je crois que tout le monde est à peu près d'accord sur le fait qu'il ne faut pas le faire. On sait que ça dégage énormément de quantités d'eau, de produits chimiques, etc. La pollution des nappes phréatiques possible, pas forcément vrai. Alors maintenant, on a trouvé la stimulation au propane. Pas la fracturation, mais bien la stimulation au propane. Ça, ce sont en fait, ça vient du Canada, entre autres, et des Américains. Qui ont trouvé donc un système pour que le propane, sans d'ailleurs qu'il soit inflammable, parce qu'on se doute bien que le propane, c'est quand même un petit peu dangereux. Là, il parle bien de fluoropropane. C'est aussi une méthode qui permet de fracturer la roche, mais très différemment. Et donc, on a entendu Arnaud Bondebourg. Maud Fontenoy a aussi demandé à François Hollande d'autoriser l'exploration de cette énergie qui est extrêmement décriée. Hervé Kempf.
Oui, et vous voyez bien que... Denis, vous n'êtes pas écologiste non plus, d'ailleurs,
oui,
Claude-Marie, Frédéric, Bénédicte, Jade, moi-même, nous ne sommes pas écologistes. Les vrais écologistes, c'est Maud Fontenoy et c'est Arnaud Montebourg qui nous promet donc pas de pollution dans le sous-sol, une exploitation écologique, c'est formidable. Voilà. Et alors, cette entreprise de... En fait, c'est une entreprise de lobbyistes extrêmement impressionnante qui se passe en même temps. On a une séquence en début de semaine, monsieur Arnaud Montebourg qui nous sort... Enfin, on n'a pas encore tous les détails et on va voir pourquoi après. La solution magique du fluoropropane. On a deux jours après la Commission européenne qui produit des recommandations pour l'exploitation du gaz de schiste, qui en fait ne sont pas des directives, n'ont aucun caractère contraignant. Et schématiquement, on va un petit peu simplifier, la Commission européenne donne le feu vert à l'exploitation du gaz de schiste dans les différents pays. Et puis, cerise sur le gâteau, Maud Fontenoy, qui en pleine page de l'excellent journal Le Parisien, nous dit, il n'y a pas de problème, allons-y, et arrêtons avec ces écolos. Je ne sais plus quel est le nom de son livre, Ras-le-bol des écolos, je crois. Oui. Voilà. Donc je propose qu'on leur accorde aussi le trophée Plume et qu'on examine un peu ce qu'ils disent. Parce que qu'est-ce que dit en fait Montebourg? On va publier un rapport qui va dire que le fluoropropane, c'est la solution. Le problème, schématiquement, c'est que le fluoropropane, c'est un fluide qui n'a pas tous les produits chimiques qui, dans l'exploitation du gaz de schiste, vont polluer l'eau et vont se retrouver à la surface ou dans éventuellement des nappes phréatiques. Mais ça n'est pas pour autant un produit sans danger, c'est inflammable, on n'en a pas la pratique et il y a toujours de la fracturation. Et on est pour l'instant dans une phase quasiment de pré-recherche, ça n'est pas exploité véritablement. D'autre part, c'est oublier... Je crois qu'il faut en fait déplacer le sujet et se dire que les perspectives du gaz de schiste ne sont pas extraordinaires, aussi extraordinaires que ça. D'une part, si on appliquait tel et tel système respectant précisément un certain nombre de mesures environnementales, le coût en serait beaucoup plus élevé que ça n'est le cas aux États-Unis.
Ça, tout le monde est d'accord. Même oui, l'IFP, ils le savent.
Mais je ne sais pas si M. Montebourg et si l'Union française d'industrie pétrolière en ont bien conscience. Et par exemple, quand la Grande-Bretagne et David Cameron, qu'on nous présente en exemple, promeut le gaz de schiste dans son pays, c'est avec des déductions fiscales et des subventions extrêmement importantes pour les entreprises.
Ce que l'on peut entendre quand même comme argument, c'est de se dire, exploration, ce n'est pas ce que l'on a sous les pieds. On peut quand même, malgré tout, tenter d'essayer... pour savoir ce qu'il y a, et éventuellement se préparer, puisqu'on comme on parle de transition écologique, de transition énergétique, et que ça va se passer quand même en grande partie avec le gaz, des gens vous disent, oui, mais là on empêche la science d'avancer. Vous voyez, je parle bien de l'exploration. Hein.
Oui, non, je suis pas sûr que la transition énergétique doive se faire par le gaz.
Non, mais je dirais que quand qu'elle on est focalise, comme ça, donc.
Quand il y a ce travail de lobby auquel participe ce ministre aussi intense, ça détourne l'attention du public sur l'autre question véritable. C'est-à-dire, si on veut faire la transition énergétique, il faut le dire et le redire, il faut stopper le gaspillage d'énergie. Quand Arnaud Montebourg, à l'audition parlementaire, dit qu'il faut aller dans la direction du gaz de schiste parce que nous importons 68 milliards d'énergie chaque année, que ça pèse sur la balance, il a raison pour la balance. Mais plutôt que d'investir dans une technique qui est extrêmement incertaine et qui est extrêmement polluante, en termes d'émissions de méthane aussi, il n'y a pas que le problème des fluides de fracturation, mais il y a les émissions de méthane qui est un puissant gaz à effet de serre. Et le sujet dont on ne parle jamais, qui est quand même sidérant, c'est l'impact paysager du gaz de schiste. Oui. Si vous faites des puits de gaz de schiste, que ce soit avec du fluoropropane ou
ça
avec d'autres
fluides... Ça prend un hectare en surface, il en faut quand même un certain nombre de centaines, voire de milliers, pour que ça puisse rapporter.
C'est un gaspillage d'espace important. Et donc... l'essentiel, ça serait d'aller plutôt vers l'efficacité énergétique, vers l'économie d'énergie, où là, on peut créer de l'emploi. Mais on va, et c'est peut-être là qu'il y a une clé de l'affaire, on va peut-être profiter, enfin, être utile à d'autres types d'entreprises. C'est-à-dire, si on va dans les économies d'énergie, on va développer un savoir-faire beaucoup plus répandu, ça va être les PME qui vont travailler et créer de l'emploi. Si vous faites du gaz de schiste avec des grosses sociétés comme Vallourec, etc., vous allez soutenir, et c'est d'ailleurs les plus grosses entreprises françaises qui promeuvent le gaz de schiste. Donc on a un choix économique, en fait, qui est-ce qu'on privilégie ? Les grandes entreprises qui pratiquent en partie l'évasion fiscale, qui sont très délocalisées, qui payent relativement peu d'impôts, ou est-ce qu'on va vers le tissu économique français qui génère beaucoup d'emplois ? Voilà, fondamentalement... on peut dire quand même que c'est une fois de plus le choix entre deux visions du monde. On peut parler de la technique, bien sûr, mais est-ce qu'on continue dans le fossile, dans toujours cette idée qu'il faut maintenir la croissance à tout prix et il faut absolument chercher une énergie à bas prix, ou est-ce qu'on va dans un monde qui est beaucoup plus écologique et qui, au passage, une fois de plus, générera plus d'emplois ?
Frédéric Denhé.
Ben, c'est la fuite en avant technicienne dans une société d'ingénieurs, dans une société technicien. Donc, plutôt que de réfléchir...
Ça nous a apporté aussi les bienfaits. On ne va pas pilori les ingénieurs, mais c'est assez brillant en France.
Sauf que là, on a le problème de l'accumulation du CO2 dans l'atmosphère et que le choix, ce n'est même pas de se dire le pic oil va arriver ou le pic gaz va arriver. Le choix, c'est de se dire qu'il faut serrer la ceinture pour ne pas exploiter ce qui reste. D'ailleurs, le fluoropropane est un gaz à effet de serre, je tiens à signaler. Il y a une statistique qui est sortie récemment, 80% du CO2 dans l'atmosphère des émissions anthropiques vient de l'énergie. Et quand on regarde les statistiques, l'évolution, on s'aperçoit qu'à la fois les émissions par rapport au PIB diminuent, ce qui veut dire que les économies comme l'Inde et la Chine sont de plus en plus efficaces. Mais par contre, les émissions par tête de pipe augmentent parce qu'il y a une demande effrénée de la Chine, de l'Inde, du Brésil, des pays émergents pour de l'énergie. Et cette énergie, malheureusement, c'est quoi ? Vous parliez de transition énergétique, elle se fera sans doute pas par le gaz. Pour l'instant, elle est partie pour se faire au charbon. C'est le charbon, l'énergie d'avenir. Et donc, un Montebourg peut dire, entre la peste et le choléra,
c'est
je choisis
fait aux
gaz.
USA, effectivement, par le gaz, mais c'est pour ça, après, donc, le cours du charbon s'est écroulé. Et donc, on récupère aussi ce charbon.
Et le charbon inonde le marché, l'Allemagne en utilise, la France en utilisera un moment ou un autre.
Donc, ce n'est pas une transition énergétique.
Ça ne peut être qu'une transition de la consommation, on a souvent parlé, Hervé l'a dit. C'est consommer différemment, avoir une culture de l'énergie qui nous empêche de consommer trop. Mais ça, c'est la culture et de la sociologie.
Voilà, Jeanne Lingard de Mediapart. Alors, peut-être un petit coup
coup de gueule et puis peut-être aussi un petit coup de cœur, je vous en prie. Peut-être un petit coup de gueule énergétique là aussi.
Bah, c'est-à-dire qu'en fait, mais en lien complètement avec ce que vient de dire Hervé, il y a eu une autre communication intéressante de la Commission européenne la semaine dernière. Elle concernait les objectifs de développement des énergies renouvelables pour 2030. Et cette communication, donc c'est une proposition de la Commission européenne qui préconise donc de passer à un objectif de 27% d'énergie renouvelable dans le système de production de chaque pays. Or, que s'est-il passé en coulisses de cette proposition ? Eh bien, la France a œuvré pour empêcher quelque chose qui est un peu technique mais déterminant, qui est le fait que cet objectif soit décliné pays par pays. Aujourd'hui, en Europe, chaque pays possède un objectif européen de niveau minimum d'énergie renouvelable. Oui. Et donc, on a l'objectif bien connu aujourd'hui de 20% de renouvelables en 2020. Mais la Commission s'est assurée à l'époque que chaque pays soit directement concerné par le 20%. Ce n'est pas 10% quelque part et puis 40% ailleurs. Là, ce qui va se passer pour 2030, pour l'instant, c'est qu'en 2030, on a un objectif général pour l'Europe, 27%, et puis aucune déclinaison par État. Ce qui signifie qu'en fait, l'objectif, en réalité, va être complètement dilué dans les 27 États membres, parce que permet, c'est à la fois une méthode, enfin ça peut paraître un petit peu théorique, mais en fait c'est très très concret, parce que permet le fait d'avoir un objectif par pays, il y a un reporting, la commission contrôle, où est-ce que vous en êtes, on trace des trajectoires, et c'est pas pour autant qu'on va entrer en guerre les uns contre les autres parce qu'on n'a pas respecté l'objectif, mais néanmoins, vous voyez bien qu'il y a un système de contrôle.
Il y a un cadrage, contrôle, quoi, quand même, bien sûr.
Voilà, là, qui disparaît complètement. Et donc, c'est là où ça boucle avec ce que disait aussi Frédéric sur les inconsistances de la politique française concernant la transition énergétique, c'est qu'au moment où nous sommes en train de préparer un projet de loi dit de transition énergétique, sur lequel il y aurait beaucoup de choses à dire, mais ça sera la prochaine fois, sans doute. Au moment où donc on fait ça, donc on est censé avoir la transition énergétique au cœur de notre politique énergétique, qu'est-ce qu'on fait ? On se bat à Bruxelles pour éviter que cet objectif donc, soit, au fond, trop contraignant. Et pourquoi ? Parce que derrière, il y a un enjeu d'exportation du nucléaire. Et ça, c'est dit, au fond, assez ouvertement, par des conseillers de François Hollande, qui disent que, ben, à un moment, c'est vrai que, bon, si on veut continuer à exporter des réacteurs nucléaires, notamment dans vers l'est de l'Europe, mais aussi en Grande-Bretagne avec les EPR qui sont en cours de vente aujourd'hui, ben, c'est vrai que c'est peut-être un peu dommage de se mettre une barrière,
une
quoi,
bonne dose d'énergie renouvelable,
parce que bon, plus il y aura des renouvelables, moins il y aura de nucléaire. Oui. Donc on est quand même à la fois dans un jeu de dupes et à la fois aussi dans un élément qui est assez révélateur, à mon avis, qui est un peu une alerte sur ce qui se prépare en France, parce que comment croire qu'un projet de loi pourrait être vraiment ambitieux si dans le même temps, en loose day, plus ou moins,
faut réussir à faire passer l'idée que le nucléaire est quelque chose de renouvelable. Voyez, on va dire énergie renouvelable, ça peut se faire. Avec une bonne communication, ça peut se faire. Ça peut se faire. Allez, musique. Et voici Bruce Springsteen sur France Inter, que nous aimons. Oh, depuis, je ne vous en parle pas. Et on va continuer donc le voyage avec nos amis ici présents dans 4 minutes. Monday morning runs, Sunday night scream. Slow me down before the New Year dies. Well, it won't take much to kill her. Love and smile, and every mother with a baby crying in her arms singing, give me help, give me strength, give a soul a night to fall asleep. Give me love, give me peace. Don't you know these days you pay for everything? Army breaking like a cloud, they're gonna
Forme, là. Gay, entreprenant, dynamique.
C'est au de mon amour, Denis Chessou.
C'est du brutal.
Sur France Inter.
Ah, c'est du brutal, mais oui, dans cette émission, c'est du brutal. Deux bons disques, hein, quand même, là. On a eu Thomas Fersen, on a eu Bruce Springsteen. Merci à Thierry Dupin, notre merveilleux programmateur. Et un ouvrage, tenez un petit coup de cœur pendant que vous terminez votre livre, Hervé Kempf. Donc, quel est ce livre que nous n'avons pas lu les uns les autres, que vous allez nous allécher, peut-être
L'homme sans argent,
ah, oui.
Que je vous prêterai, parce que, enfin bon... c'est l'histoire d'un Mark Boyle, oui. Qui est un écologiste anglais et qui, il y a quelques années, a décidé de mettre en accord ce qu'il pensait et disait avec sa vie. Et donc, il s'est organisé pendant quelques mois pour passer une année sans argent. Et il a vécu sans argent pendant un an. Alors, qu'est-ce qu'il a fait?
Il n'a pas fait la Manche.
En revanche, il a fait pas mal de récup, par exemple d'aller dans les poubelles des supermarchés pour récupérer les nourritures invendues. Il s'est fait prêter une caravane, il s'est fait donner, pardon, une caravane dans laquelle il a construit sa maison. Il travaillait sur un terrain prêté et en échange, il travaillait dans la ferme qui lui prêtait le terrain. Il faisait toutes sortes de choses. Il coupait son bois, il cueillait beaucoup, il avait un potager en bio, il circulait avec un vélo et quand il avait une panne, il demandait à des gens de lui donner par exemple le frein ou le pneu qui manquait. Enfin voilà, il a tenu pendant un an, il le raconte de manière... c'est très vivant, c'est pas prêchi-prêcha, c'est plein d'expériences, aussi de sentiments. Il raconte comment sa vie est bien, comment il redécouvre un certain nombre de choses. Il grossit, il dit, je n'y croyais pas du tout, je pensais quand même que j'allais maigrir parce qu'évidemment, il mange bien, mais il mange végétarien, il mange beaucoup avec ce qu'il trouve. Et il dit, j'ai pris 12 kilos, j'étais en pleine forme.
Ah oui,
forcément. Il dit aussi, il a eu des soucis, c'est pas facile, par exemple.
Avoir un peu d'argent et moins grossir.
Oui, enfin, lui, il a trouvé une méthode qui est pas mal. D'ailleurs, à un moment, parce que c'est assez drôle aussi, il le recommande gentiment à diverses personnes. Il raconte aussi ses soucis, par exemple, sa compagne, au bout de quelques mois, lui a dit, écoute, je suis pas tout à fait dans la même vie.
Au revoir, je me casse.
En gros, ouais. Une autre fois, il y a des souris qui ont envahi sa caravane. Alors, comme il voulait pas tuer les souris, il voulait pas tuer les souris. Donc, il y a eu plein de. Je vous sens moqueur.
Mais
là.
Non, un peu. Joyeux.
Mais c'est très bien parce que je crois c'est un peu plombant quand même si on regarde l'actualité écologique et les sujets dont on a abordé. Donc, on a un peu envie de se faire plaisir. Et ce livre de Mark Boyle donne une vraie pêche. Alors, je finis, c'est pas de le lire. Je voulais juste vous faire deux petites citations parce que.
Allez-y.
Après, mais on n'aura pas le temps. Mais tout ça, c'est aussi sur la question du don. Oui. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut vivre en donnant et en recevant, et pas seulement dans l'échange? Parce que le don, c'est j'attends pas forcément quelque chose, mais quelque chose va m'arriver par ailleurs. Et il a vécu... Mon expérience me dit que si on donne gratuitement, sans penser à ce qu'on aura en retour, on reçoit gratuitement. C'est un flux organique entre donner et recevoir, une danse magique sur laquelle est établi notre écosystème tout entier. Croire que la vie va vous donner ce dont on a besoin est pour moi une libération complète. Cela dissout les angoisses et permet de faire ce qu'on a réellement envie de faire.
L'homme sans argent de Mark Boyle aux éditions des Arènes, c'est cela ?
Excellent. Parfait.
Bon, ben voilà, donc vous m'avez un peu convaincu en tout cas de le lire. Claude-Marie Vadraud, une petite nouvelle un peu positive du Sénégal.
Oui, on va continuer parce qu'il nous faut un antidote au désastre du Caucase où un pays a dépensé quand même 50 milliards de dollars pour massacrer une région, tout en gaspillant l'énergie qui contribue à la modification du climat. Et c'est justement le problème des Sénégalais dans le nord du Sénégal, dans le Sahel. Il y a 1 million d'animaux qui transhument chaque année et qui trouvent de moins en moins d'eau parce qu'il pleut de moins en moins. Alors il y a les gens d'agriculteurs et vétérinaires sans frontières avec des paysans français qui vont là-bas régulièrement pour essayer de voir comment ils peuvent les aider à résoudre les problèmes. À la fois avec des petites installations de méthanisation, des petites installations solaires, la mise en culture de jardins potagers. Vous savez que c'est quelque chose qui me passionne beaucoup.
Bah oui.
Et puis, ils essaient aussi de réguler les relations entre les éleveurs et les agriculteurs. Car quand il n'y a pas assez d'eau, les éleveurs redescendent vers le sud beaucoup plus tôt et ont tendance, avec leurs animaux, à piétiner les cultures qui ne sont pas encore cueillies. Donc il faut régler tout ça. Et ça semble pas trop mal marcher, même si, au fond, on peut se demander pourquoi et de quel droit on va demander à ces gens, pour faire face aux modifications climatiques, de changer leur mode de vie. Parce que c'est ça. Pour l'instant, ils se vivent comme des éleveurs transhumants. Et il y a des conflits, parfois sanglants, entre éleveurs et agriculteurs. Alors, les gens d'agriculture et Vétérinaires sans frontières, ainsi que des paysans français de la Confédération paysanne, essaient de les aider à régler leurs problèmes.
Merci Claude-Marie Vadreau. Aussi une nouvelle intéressante, Frédéric Danhué, qui n'est pas du tout négative, du côté de l'hydrogène. Parce que ça, on en parle depuis des années, avec les problèmes que l'on connaît de stockage, de production. Où en est-on et peut-être une nouvelle orientation.
Oui, alors en France, on cherche toujours le Saint Graal, la manne divine. Donc c'était le nucléaire, maintenant c'est l'hydrogène, énergie abondante, sans pollution, etc. Tout le monde s'est lancé là-dessus. On nous promet des voitures à hydrogène. Les spécialistes savent que ce n'est pas possible, c'est dangereux, c'est difficile à stocker, c'est difficile à fabriquer parce qu'il n'existe pas naturellement. Il faut beaucoup plus d'énergie pour fabriquer de l'hydrogène qu'il n'y en a dans l'hydrogène. Bref, il y a un rapport parlementaire qui est sorti il y a 2 jours de Laurent Kalinowski et de Jean-Marc Pastor, qui pour une fois ne parle pas du tout de cet aspect saint graal de l'écologie, dit juste de l'écologie de l'hydrogène, il dit juste que l'hydrogène, compte tenu de tous ces problèmes, ne pourra être produit que localement. En gros, on branche la prise des éoliennes et des panneaux photovoltaïques dans une bassine d'eau, ça fait une électrolyse et on récupère l'hydrogène, et que cet hydrogène ne pourrait être que consommé localement via, par exemple, Négawatt en a parlé, la méthanation, c'est-à-dire on fabrique du méthane à partir du CO2 que l'on récupère par ailleurs, ou alors on l'injecte dans le réseau de gaz, comme dans les années 50 à Paris et dans les grandes villes de France, où le gaz, c'était un mélange de monoxyde de carbone et d'hydrogène. Voilà. Ce qui est intéressant là-dedans, notamment dans l'orientation numéro 4, c'est, je cite, une nouvelle place pour les territoires, donner toute leur place aux initiatives locales pour mieux les fédérer, etc.
C'est-à-dire, il faudra quand même un cadre étatique assez fort.
Il faudra un cadre étatique fort, une intervention de l'État importante, des investissements très lourds, mais c'est la première fois dans ce rapport parlementaire qu'on trouve. Voilà, c'est le primat de l'initiative locale pour une distribution locale et surtout pas pour transformer les voitures en bombes à hydrogène. Et ça ne peut que favoriser, c'est ce que dit le rapport, les champs d'éoliennes, parce que eux ont un voltage, un ampérage suffisant pour fabriquer de l'hydrogène par électrolyse.
Nous allons aller aux États-Unis, mais d'abord avec cette citation de Jacques Bonnafé, lue par Jacques Bonnafé.
Nous nous sommes enrichis de l'utilisation prodigue de nos ressources naturelles et nous avons de justes raisons d'être fiers de notre progrès. Mais le temps est venu d'envisager sérieusement ce qui arrivera quand nos forêts ne seront plus, quand le charbon et le fer et le pétrole seront épuisés, quand le sol aura encore été appauvri et lessivé vers les fleuves, polluant les eaux, dénudant les champs et faisant obstacle à la navigation. Theodore Roosevelt en 1908.
Alors, Jadine Garde, pas mal, hein, donc, cette citation de Theodore Roosevelt lue par Jacques Bonnafé, homme du Nord. Vous avez écouté en partie le discours de l'État de l'Union d'Obama. Que souhaitez-vous en dire, peut-être aussi d'un point de vue écologique, environnemental?
J'ai trouvé, d'abord, ça a été très peu relevé, mais il y avait tout un passage du discours qui portait sur les enjeux climatiques, la lutte contre le changement climatique et le développement des énergies renouvelables. Ce que j'ai trouvé particulièrement frappant, en fait, dans ce discours, c'est qu'il m'a semblé être un symétrique inversé de celui de François Hollande la semaine d'avant, où il a, François Hollande, si vous vous souvenez, a prononcé deux ou trois fois le mot transition énergétique, mais sans jamais expliquer ce qu'il mettait dedans. Alors que là, on a un discours d'Obama qui, de manière assez intéressante, et se saisit de l'idée d'une transition énergétique, sans utiliser d'ailleurs ce terme, mais l'idée d'une grandeur. Il investit le projet d'une grandeur nationale dans les énergies renouvelables, le solaire. Alors, c'est un côté un peu ridicule. Nous sommes le leader mondial du solaire. Toutes les 4 minutes, un foyer américain ou une usine ou une entreprise s'équipe en panneaux solaires. Donc, ça a ce côté un peu gloriole, quoi, patriotique. Mais l'intérêt de ça, c'est qu'on voit un sujet qui est investi politiquement par un chef d'État. Et d'ailleurs, ce n'est pas uniquement des formules en l'air, parce que le discours est assez précis. Il annonce une réforme fiscale pour mettre fin à quand même 4 milliards de dollars de subventions annuelles aux industries fossiles. Il parle des nouvelles normes à l'étude pour limiter encore davantage les émissions de CO2 des centrales énergétiques. Sachant, suite à l'échec, vous vous souvenez, du projet de loi il y a 2 ans, et ben donc on passe à la norme administrative. Il parle de l'efficacité, des normes à améliorer pour l'efficacité énergétique des camions. Enfin, c'est un discours sérieux. Et donc, j'ai trouvé saisissant, on dirait, le contraste. Mais juste pour dire, c'est en même temps sans happy ending, puisque 2 jours plus tard, sortait un rapport du département d'État donnant, en gros, le feu vert au gros projet d'oléoduc de pétrole de schiste. Donc, voilà, il ne faut pas non plus vivre dans le pays des bisounours.
Merci beaucoup, Jeanne Lingard de Mediapart. Merci, Bénédicte Magnier de l'AFP. Hervé Kempf de Reporter, le site aussi, sur le site de CO2 Mon Amour. Claude-Marie Vadreau, je tiens à signaler que l'histoire que vous avez racontée du Sénégal est dans Politis cette semaine. Et Sochi sera dans le numéro de jeudi prochain de Politis. Frédéric Dan, et vous reviendrez, vous êtes toujours en train d'écrire un livre de toute façon, voilà, merci beaucoup. Et puis que vous dire, eh bien, d'abord merci à Sandrine Laurent et Alexandre Chenet à la technique, à Stéphane Combe, à Fabrice Lègle qui réalise l'émission, à Anne Gouzon qui nourrit les sites de CO2 Mon Amour, et allez voir le site aussi de Anne Gouzon parce que ça nous donne beaucoup d'informations. L'atelier Mon Petit Loup, ce sera demain à 19h54. La semaine prochaine, on va faire un petit tour dans un lieu qu'aime beaucoup Hervé Kempf, Notre-Dame-des-Landes. Voilà, j'y suis allé et j'étais avec des naturalistes qui étaient un petit peu contrariés, donc on va parler de Notre-Dame des Landes, mais sous l'angle de la biodiversité. Il y aura aussi Jean-Marie Pelt, et puis peut-être une pub maintenant. Oui, une pub.